Chapitre 6. Franz Hals. Respecte les petites gens. La volonté ne suffisait plus. Paul, désormais, buvait. Beaucoup trop. La bouche pâteuse et les épaules voûtées, il entretenait Camille de ce qu'il nommait avec insistance ses problèmes matériels, auxquels il ne pouvait faire face, mais qui dans son esprit n'altéraient en rien son investissement affectif pour sa famille, intacte, immense. Camille écoutait, inquiète et courageuse. Mais ce soir-là, à table, en face de sa fille et devant les verres qui se vidaient les uns après les autres, elle lui lança sèchement qu'elle ne savait plus si ses fameux problèmes matériels, au fond, ne l'arrangeaient pas pour se réfugier dans le vin. « Et tu verras si ce n'est pas un problème matériel, comme tu dis, cette saloperie !» Paul, vexé de voir soudain son vice surgir ainsi aux yeux de Mona, fut tenté de s'enfuir, en fracassant de colère quelque chose, n'importe quoi, pourvu que ce soit bruyant. Il n'en eut tout simplement pas le courage. Pour cela aussi, la volonté lui faisait défaut. Camille se reprocha aussitôt d'avoir pris sa fille à témoin et, sans doute, d'avoir été injuste. Mais il était trop tard. Mona, d'abord interdite, intimidée par cette violence froide, eut alors une réaction déconcertante. Elle s'étira en poussant un petit soupir d'aise, comme si elle cherchait à détendre ses membres et à leur donner plus d'ampleur, à les rendre élastiques pour les agrandir, à se délivrer autant qu'elle pouvait de son enveloppe d'enfant pour prendre part à ce monde d'adulte où elle venait d'être projetée malgré elle. Et se détendant elle-même, elle délayait la lourdeur ambiante. Puis, d'une voix caricaturalement ferme et posée, elle singea maladroitement mais vaillamment une réflexion de grande personne. « Tu sais, maman, papa pourrait un jour transformer ses problèmes ?» À ce mot, Paul tressaillit, mais se retint d'interrompre sa fille. « Il pourrait en faire une grande histoire. Dans les livres et dans les films, il y a toujours de la tristesse et du malheur. Mais quand c'est bien raconté, alors ça devient beau. » Paul et Camille demeurèrent étourdis 10 bonnes secondes, tandis que Mona, sans une parole de plus, évitant même de finir ses quelques anecdotes sur sa journée de classe, se murait dans un silence serein, celui de la mission accomplie. Le dîner passa très vite, et sitôt avalé un petit pot de crème mocha, elle gagna sa chambre.
« Paul, tu m'écoutes ?»«
Oui. Il lui fait un bien fou à Mona, ce psy, non ?»«
Oui, un bien fou. » »«
Tiens, sa prochaine séance est demain, d'ailleurs. » Le feu passa au rouge. Mona abandonna la main de son grand-père, bondit pour traverser la rue, fit volte-face une fois le trottoir atteint, rebroussa chemin en direction du vieil homme qui lui-même cheminait à pas lents, reprit sa main. Un vrai petit boomerang. « Tu sais, Mona, je n'aime pas trop que tu t'envoles comme ça. »«
Oh, Daddy, je fais bien attention. Et puis je me retourne toujours pour voir si t'es là. »«
Prends garde. » Tu vas me transformer en fantôme un de ces jours. » La remarque, objectivement effrayante, stupéfia Mona. En fantôme? Et pourquoi donc? Mais Henri faisait allusion au mythe d'Orphée, qu'il avait promis de lui raconter alors qu'il se trouvait devant le tableau de Raphaël 3 semaines auparavant. Orphée était un poète et jouait merveilleusement de la lyre. Son chant s'avérait si beau qu'il charmait même les animaux.
Est-ce que c'est vraiment possible, ça ?
Orphée y parvenait, en tout cas. Sa voix attirait les lions et les chevaux, les oiseaux et les reptiles, les rongeurs et les éléphants. Il était irrésistible. Un jour, Orphée tomba amoureux d'une nymphe, du nom d'Eurydice, et l'épousa. Celle-ci, malheureusement, fut mordue par un serpent et mourut. Le poète, dévasté de chagrin, descendit au royaume des morts pour tenter de la récupérer. Grâce à la pureté de son chant, il convainquit Hadès, le dieu des enfers, de lui accorder le droit de la ramener à la surface de la terre. Hadès imposa néanmoins une condition. Orphée ne devait pas se retourner pour voir sa bien-aimée, quelles que soient les circonstances, avant d'être revenu parmi les vivants. Or, à quelques mètres de la fin de leur trajet vers la lumière, Orphée fut inquiet de ne plus entendre les pas d'Eurydice. Il jeta un regard impatient et anxieux en arrière. Elle se transforma alors en une vapeur inconsistante et disparut dans l'ombre à jamais.
« Mais Dadé, c'est trop triste !»
Mona, tout au long du trajet vers le Louvre, se serra contre Henri à la manière d'une bestiole apeurée. Elle entravait la marche de son grand-père en agrippant ses vêtements par tous les plis possibles et elle se saoulait de son parfum d'eau de Cologne. Surtout, elle se répétait qu'il fallait toujours regarder droit devant soi, droit devant soi, droit devant soi. Ce mantra l'aida à concentrer son attention au moment de découvrir le tableau du jour parmi les collections hollandaises du XVIIe siècle. C'était une effigie de femme de format modeste et presque carré, légèrement plus haut que large, où se découpait en buste la silhouette généreuse, sans être exagérément grasse, d'une brune tournée aux trois quarts vers la droite du cadre. Elle souriait, dévoilant la partie supérieure de sa dentition. Ses yeux étaient mi-clos, plombés par des paupières lourdes d'ivresse et de gaieté. L'orientation des pupilles laissait à penser qu'elle s'amusait de quelque chose situé hors champ. Son visage, un peu replet, était marqué par des joues rosies. La peau était par ailleurs bien blanche et dense, épaissie par le relief de la touche du peintre, et contrastait avec une masse de cheveux cerclée d'un serre-tête et glissant cependant jusqu'au dos de façon désordonnée, une sorte d'ébouriffement qui soulignait le naturel populaire, paysan du modèle. Il avait aussi sa poitrine, compressée et gonflée. Au niveau du décolleté, enflait ainsi la courbe de deux seins collés l'un à l'autre sous une chemise blanche, elle-même couverte d'une blouse d'un rouge corallin. À l'arrière-plan, le décor particulièrement indistinct, tout en ton brun et gris, pouvait suggérer des aspérités rocheuses aussi bien qu'un ciel lourd du nord, et par son absence même d'éléments précis, concentrait plus encore l'attention sur cette jeune fille libre, joyeuse et négligée. Mona l'observa longuement, près de 20 minutes, puis examina le cartel et fronça les sourcils. « C'est quoi une bohémienne, Dadé ?» Pour tout dire, Mona, à l'époque où est exécuté ce tableau, vers 1626, on ne le savait pas exactement. Les bohémiens constituaient un peuple mystérieux, considérés comme exotiques, avec des mœurs et des pratiques marginales. Ils étaient nomades, c'est-à-dire qu'ils ne restaient jamais très longtemps au même endroit. Et sans attache fixe, ils vivaient au fil du temps, parcouraient les chemins, sans intégrer les corps de métier traditionnels. Ils faisaient évidemment un peu peur, mais d'un autre côté, ils incarnaient une forme de liberté qui avait une aura fascinante. Ils étaient réputés pour leur talent de musiciens, et on leur prêtait des dons de magiciens, celui de deviner l'avenir, notamment en lisant dans les cartes, les boules de cristal ou les lignes de la main. L'avenir ? Hé, Dadé, à moi, il m'arrivera quoi ? Et Mona présenta sa paume. Que cette question, formulée avec une langueur pathétique, fit mal à Henri. Il y entendait l'angoisse de la cécité, de l'ombre éternelle. Il y entendait sa petite fille perdue dans une nuit sans lune et sans étoiles. Était-ce possible? Était-ce vraiment possible? Mona examinait sa propre paume, y traquait un signe, un bout de message, un petit phare lumineux dans les sillons de sa peau rose. Elle replia les doigts, serra fort le poing. C'était déchirant. Henri sentit son cœur se décrocher et se ratatiner au fond de son estomac. Mais il repensa, avec la volonté de faire dont il était capable dans de tels moments, à l'impérieuse nécessité de son projet auprès de sa petite fille, si d'aventure les ténèbres devaient bâcher sa vue. « Et moi, Mona, j'aimerais surtout que tu me dises ce que tu penses de cette bohémienne. »
« Bon, c'est dur à dire, Dadé. Quand tu m'emmènes au Louvre, c'est pour voir des hommes et des femmes un peu jolis, hein. Enfin, j'avais l'impression. Les déesses de Botticelli, la Joconde de Léonard, l'esclave de Michel-Ange, c'était waouh. Là, sans te vexer, disons que je la trouve moins belle. »
Elle marqua un long silence.
« Et en même temps... »
« Quoi ?»«
Et en même temps, si l'artiste la peinte, c'est qu'il devait la trouver jolie, hein ?
Très certainement. Je ne sais pas s'il aurait utilisé ce mot-là. Mais il lui trouvait quelque chose, en tout cas. Tu as raison. Quelque chose digne d'être l'objet d'un portrait. Il faut que tu comprennes cela, Mona. Depuis les débuts de la Renaissance, au XVe siècle, il y avait de plus en plus d'individus qui se faisaient portraiturer. Ils payaient, parfois très cher, les artistes pour représenter leur visage. Et il s'agissait bien souvent d'insister sur les qualités physiques, de gommer les défauts, de faire rayonner la personne en la présentant sous un jour avantageux, prestigieux, des habits élégants, une activité valorisante. Et ces personnes étaient généralement des gens riches, haut placés dans la société. Leurs portraits consolidaient leur image, leur stature et leur pouvoir. C'est pourquoi il y a tant d'effigies de princes ou de rois dans les allées du Louvre. Oui, mais il y a aussi des peintures avec des gens du peuple. Je me souviens du tableau de Titien. Il y avait ce garçon de la campagne qui jouait de la musique avec quelqu'un de bien habillé. Très juste. Mais ce n'était pas un portrait. Rappelle-toi, Titien n'isolait pas ce garçon. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire artistique, une scène de genre. C'est-à-dire une scène populaire tirée de la vie quotidienne où il y a une action. Dans le portrait, il n'y a pas vraiment d'action. Tout est figé comme dans l'éternité. Oui, sauf que moi, j'ai l'impression qu'elle bouge, la bohémienne. Et même qu'elle se retourne. Comme ton Orphée. À ce souvenir, elle grimaça. Bonne objection, Mona. Elle est en train de se tourner vers quelque chose, ou quelqu'un, à l'extérieur du cadre. Nous ne savons pas ce que c'est, mais oui, un élément attire son attention. Et cela la fait sourire. Elle est donc prise dans le cours d'une action, en effet. Laquelle ? C'est impossible à dire. Mais l'artiste est néerlandais. Il s'appelle Frans Hals. Et la Hollande, dans la première partie du XVIIe siècle, est un pays où l'on peint énormément de moments joyeux et populaires, où s'amusent des gens simples. Des danses, des repas, des fêtes dans la rue ou dans les auberges. Des scènes de genre, des épisodes anecdotiques du quotidien, où crépite un franc et chaleureux plaisir. Comme un goûter d'anniversaire avec Jade et Lily. Remplace les jus de fruits et les sodas par du vin et de la bière, et c'est à peu près cela, Mona. Et maintenant, regarde attentivement ce que fait Frans Hals. Il isole sa bohémienne du reste de la scène. Il lui offre un cadre pour elle seule. Le tableau est donc à la frontière entre la scène de genre et le portrait, ou, pour le dire autrement, la scène de genre glisse, par un simple procédé de cadrage, vers le portrait. Et c'est là la clé de ce tableau. Cette jeune fille est bourriffée, aux pommettes rougeaudes, un peu saoule peut-être, qui appartient à un groupe social marginalisé, les bohémiens, se voit accorder des honneurs traditionnellement réservés aux individus nobles et riches. On ne saura certainement jamais de qui il s'agit. Elle demeurera pour toujours une bohémienne parmi d'autres, mais Frans Hals cherche à susciter l'estime pour elle-même et les siens. Il était bohémien, Frans Hals ? Non. Et il a réalisé des portraits de gens de toutes conditions. Il était particulièrement apprécié pour sa manière d'appuyer sa touche, de la rendre visible, presque palpable, de sorte que sa peinture ne donne pas l'illusion d'une texture continue, mais relève plutôt d'une juxtaposition dynamique et légèrement saccadée de pans de couleurs. Une telle technique peut paraître abrupte, presque choquante, mais elle est surtout plus énergique. Les visages gagnent alors en vitalité. On dirait qu'ils sont vraiment là, quoi. Qu'on peut les toucher? Exactement. C'est pourquoi Frans Hals fut abondamment sollicité dans la ville hollandaise de Haarlem, où il habitait. De grandes guildes de marchands, de riches gentilshommes, de hauts dignitaires voulaient leur effigie signée de sa main, et contre de belles sommes, grossissaient les rangs de sa clientèle. Mais ce n'est pas tout. Sans commanditaire, simplement par amour des gens, et pour transmettre sa considération envers le petit peuple, Hals figurait volontiers des individus ordinaires, pour faire sentir leur caractère. Il peignait des trognes, disait-on, où l'expression pouvait virer à la trivialité ou à l'outrance. Il exaltait dès lors des émotions fortes, incarnées, humaines, que fuyaient bien souvent les portraits officiels de modèles qu'on prétendait importants. D'accord, Dadé. C'est quoi la leçon du jour ? Elle est très simple. Franz Hals nous dit que cette bohémienne, avec toutes ses imperfections, avec tous ses travers, avec sa vulgarité et la réputation trouble attribuée à son peuple, mérite autant de déférence que les nobles, les notables. Voilà pourquoi Franz Hals l'a couchée sur sa toile. Et il n'avait pas besoin d'être bohémien pour ce faire, seulement d'être artiste. Ce qu'il nous murmure, c'est qu'il faut respecter les petites gens.
C'est compris, Dadé.
Dans le dos d'Henri Vuillemin, une jeune visiteuse, constellée de taches de rousseur et munie de grosses lunettes rouges et rondes, avait tout écouté sans siller. Un garçon à la mèche si longue et ondulante qu'elle semblait matérialiser le vent sur son visage, se tenait à côté d'elle. Il avait l'air terrassé par l'échange auquel il venait d'assister, partagé entre incrédulité et admiration.
« Pardonnez-moi, monsieur, » osa-t-il. « C'est votre petite fille ? Vous êtes son grand-père ? » ?»«
Oui, c'est cela, mon jeune ami. Et je vous retourne l'indiscrétion. Est-ce donc votre fiancée ?»«
On ne sait pas, » répondirent-ils timidement en chœur.
« Eh bien, prenez le temps d'y réfléchir. » Et excellente journée. En quittant le Louvre, Henri devint songeur. Il méditait ce qui avait dû motiver l'intervention du garçon. À coup sûr, ce dernier n'en était tout simplement pas revenu que des propos d'une telle richesse, d'une telle profondeur, puissent passer d'un vieil érudit à une petite fille. Fort de cette conviction, Henri s'amusa à rembobiner le film de son dialogue avec Mona. De quoi lui avait-il parlé aujourd'hui ? Entre autres de l'histoire du portrait depuis la Renaissance, de la sociologie de la Hollande du XVIIe siècle, ou encore des techniques picturales de l'empattement. La fillette n'avait peut-être pas tout compris, et c'était bien normal, mais elle avait voulu tout absorber, ne rien manquer, et objectivement, cet appétit s'avérait déjà prodigieux en soi. Pourtant, du point de vue d'Henri, l'extraordinaire n'était pas cela. L'extraordinaire se situait ailleurs. Il résidait aussi, sinon plus, dans le langage de l'enfant, dans sa petite musique, dont il soupçonnait qu'elle faisait résonner quelque chose d'absolument singulier. Quoi donc ? Il l'ignorait toujours, alors il se contentait de le pressentir, à défaut de le circonscrire. Depuis longtemps déjà, il cherchait la réponse, sans succès. Et ce mercredi, grâce à ce garçon, il se demandait si quelqu'un d'autre que lui, en écoutant très attentivement Mona, chacun de ses mots, chacune de ses phrases, aurait été capable de résoudre le mystère à sa place. Certainement. Peut-être. Ou pas. Et d'ailleurs, cette énigme existait-elle, ou était-elle pure spéculation de sa part ?
Quant à Mona, plus ou moins consciemment, elle s'attelait à fixer un cap droit devant elle. Elle pensait encore à cette histoire d'Orphée, d'Eurydice et des enfers. Mais quel idiot, ruminait-elle intérieurement en se figurant l'instant fatal où le poète faisait pivoter sa tête.
« Thaddée, s'il te plaît, dis-moi pourquoi Orphée, il se retourne. C'est si bête quand même. »
« Tu comprendras un jour, Mona, le jour où tu tomberas amoureuse. »